Bonjour à tous, bienvenue pour votre émission de sport. Aujourd'hui on parle de sport, on parle de vroom vroom, on parle de boss, on parle de sable. Vous allez tout connaître sur l'invité qui est avec moi dans les studios et c'est un honneur de l'avoir avec nous. Et on vous dit ça dans quelques instants, restez avec nous. Aujourd'hui, on parle de vroom vroom, on parle de boss, on parle de sable. J'espère que ça vous dit quelque chose. On parle de Dakar. Et oui, aujourd'hui, j'ai un invité spécial. Et c'est un honneur pour moi de l'avoir ici dans les studios avec nous. C'est Sébastien Herbé, si je dis pas de bêtises.
C'est bien ça.
C'est bien ça, hein. Oui. Parce qu'il y en a qui disent Herbert. Mais non, c'est Herbé. Sébastien Herbé. Exactement. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Ben, merci à vous. Merci à vous de m'avoir sollicité. C'est un immense plaisir d'être parmi vous.
On va parler de ce Dakar 2024 qui a eu lieu il y a pas longtemps. Avant de parler du Dakar, de cette compétition, parce que c'est une belle compétition, à la fois belle et à la fois dure, on peut le dire, hein, Sébastien, c'est compliqué, il faut beaucoup se préparer, je suppose.
Alors, c'est beaucoup se préparer, oui, c'était mon fer de lance, en fait, c'était, je voulais pas y aller pour subir, donc en fait, je connaissais un peu les caractéristiques.
Non, mais tu as subi quand même la compétition.
Ah, on l'a subi, par la force des choses, au jour le jour et au quotidien, c'est des journées qui sont énormément éprouvantes, donc ouais, j'ai voulu bien me préparer pour être bien le matin, pouvoir récupérer le soir et tout, malgré les épreuves conséquentes, donc non, c'est une grosse préparation.
Alors, quand mon réalisateur, il a su que tu venais, et il a dit avec mon 103 SP, avec les sacoche sur le côté, je vais lui mettre la misère au prochain Dakar.
Il peut.
D'accord. Il peut. Vincent, t'es au courant, il t'attend. C'est quoi le parcours un petit peu de Sébastien avant d'arriver au Dakar?
Sportivement parlant, moi j'étais amateur de rugby, j'y ai joué pendant 14 ans.
D'accord.
Et en fait, la pratique de la moto en compétition m'est venue sur le tard. En fait, j'avais 30 ans.
Hein. Ah oui.
Ouais. Et en fait, c'était une passion que j'avais, que je vivais par les images, par ce que je pouvais vivre au quotidien, par des copains qui pratiquaient ou des choses comme ça.
C'était pas une passion déjà débordant depuis très très longtemps la moto en fait.
Je l'avais en tête quoi. Après, c'est que mes parents n'étaient pas
dans ce milieu-là
et voilà, et j'avais pas eu l'opportunité de pouvoir pratiquer du sport tout terrain.
D'accord.
Et en fait, quand je suis arrivé sur les Terres Limousines en 99, je faisais ça en dilettante quoi, le week-end tranquillement en balade. Et en fait, c'est en 2007.
C'était des trails que tu faisais en dilettante.
Enduro principalement, puisque c'était un peu plus le plaisir et balade avec les copains.
D'accord.
Et l'idée me pondait quand même en tête dès que j'ai commencé à rouler sur les Terres Limousines, parce qu'en fait, les images du Dakar me sont à l'esprit depuis tout petit. Hein. Je vivais ça chaque début d'année, donc par les images et tout ça. Et je me suis dit, ouais, un jour tu le feras. Et voilà.
Oh, c'était une priorité, c'était obligatoire. On avait vraiment envie, il y avait ce rêve qui était là dans le coin de la tête.
Oui, ce rêve, ouais. Après, obligatoire ou pas, je sais pas, mais c'est, en fait, je me suis donné les moyens pour pouvoir le faire. Donc, en fait, les moyens, c'est physiquement, je me suis préparé, j'ai roulé pendant des années et tout. Donc, c'était dans ma tête, mais sans pour autant dire je le ferai l'année prochaine. Et puis, il y a 2 ans, quoi, en 2021, j'ai dit, tiens, je pense que je vais partir sur le prochain Dakar, donc 2022. Donc je me suis préparé, j'ai fait des courses de préparation pour pouvoir être sélectionné sur cette course-là. Et en fait, j'ai eu mon accident en octobre 2021. Et donc ça a mis un terme momentané à cette aventure. C'est surtout ma chute m'a fait prendre conscience de plein de choses. C'est qu'en gros, t'es au point de réaliser un rêve. Donc après, il y avait le côté financier hein, qui rentre en jeu. Mais je pense que l'idée était bien là et j'ai tout mis en place pour pouvoir passer au-dessus de cet accident qui m'a psychologiquement énormément touché hein, puisque du jour au lendemain je suis un hyperactif dans la vie et du jour au lendemain tout s'arrête et tu te dis
on bouge plus, waouh.
Ouais, j'étais 8 mois en...
C'est le coup de massue en fait hein.
Mais c'est ça ouais. Et j'étais à 2 mois de partir et en fait
comment on arrive à se reconstruire, comment on arrive à trouver cette motivation pour aller vers l'avant? Bon, forcément je suppose qu'il y a toujours ce rêve dans le coin de la tête qui nous permet, qui nous motive d'avancer et de dire de toute façon j'y arriverai, mais comment on arrive à réussir à revenir et à se lancer?
Alors dans un premier temps, c'est les personnes qui t'entourent et qui te sont très très proches, qui te disent en gros c'est le pas grave.
Oui.
T'es un vaillant, tu vas y arriver. Il y a beaucoup de personnes qui ont à ce moment-là de l'accident ont cru plus en moi que moi je n'ai cru en moi.
Tu croyais en toi.
Ouais, voilà. Et en fait, c'est.
Il faut avoir une force de mental extraordinaire quand même.
Ouais, je pense que je l'ai.
Ouais.
Ouais, non, je suis là-dessus, je lâche rien. En fait, que ça soit personnellement, professionnellement et tout, j'ai un objectif en tête et je le lâcherai pas, je ferai tout pour l'atteindre.
De toute façon, quand on est un sportif, et là, plus encore, parce que c'est, on peut dire que tu es un sportif de haut niveau, participer dans cette épreuve qui est le Dakar, qui est extrêmement dur, il faut pas avoir peur des mots, il faut avoir ça.
Hein. En fait, la partie sportive de haut niveau, j'ai pas la prétention de dire je suis champion du monde, je suis le meilleur et tout.
Moi, je peux le dire qu'il faut être un sacré champion.
Après, en fait, il y a une partie de mental qui est pour moi une des parties les plus importantes.
C'est quoi, 90% mental dans ces courses-là?
Sur ces courses-là, ouais. Le mental prend le dessus parce que t'as beau être préparé physiquement et tout, si derrière t'as un moment t'as vraiment un coup de mou, ça m'est arrivé hein, des journées où je suis parti un matin pour une étape de 500 km et le matin j'ai pas réussi à me mettre dedans. Et en fait les journées sont très très longues. T'arrives à un ravitaillement au bout de 200 km, tu te dis je vais arrêter là, j'en ai marre. Et en fait non, tu peux pas lâcher. En plus il y a des conséquences financières, tu t'investis dessus.
T'as les partenaires.
Ouais, il y a les partenaires et en fait c'est.
Puis il y a ton entourage qui te supporte aussi.
Ah bah oui, c'était le Graal et en fait tu t'aperçois qu'en gros il y a un gros engouement sur la partie Dakar lorsqu'il y a quelqu'un qui est connu, qui me connaisse et qui le fait. Donc tu le fais aussi pour eux. Tu le fais aussi pour eux.
Alors, il y a cette compétition qui est mythique, hein, le Dakar, depuis des années et des années et des années. Tout le monde sait ce que c'est, tout le monde suit à la télé. Comment on fait pour y participer? Tu as parlé tout à l'heure de sélection. C'est vrai qu'il faut être sélectionné pour participer à cette épreuve?
Oui, alors depuis quelques années, en fait, l'organisation a mis en place un système de Road to Dakar. Donc, en fait, c'est une route pour aller au Dakar. D'accord. Donc, en fait, tu as des courses de sélection qui te sélectionnent dans le sens où si tu n'es pas capable de finir des courses de sélection ou ici, on ne va pas te prendre parce que l'épreuve étant dure en soi. Tu pars dans une aventure qui reste physiquement, mentalement, psychologiquement très compliquée. Les organisateurs, eux, pour des raisons de sécurité, ne peuvent pas se permettre d'avoir un pilote qui soit totalement à la rue c'est-à-dire que les secourismes, ils sont là une journée, le lendemain, ils sont sur une autre étape et c'est plus pour préserver un peu le côté sécurité et qui pour moi fait partie d'une des plus belles organisations que je puisse connaître. C'est vraiment tout est en place pour qu'on soit bien.
C'est très très professionnel.
Ouais. Là-dessus, l'organisateur David Castera met des choses en place qui sont pour moi merveilleuses.
Alors justement, il y a ces courses de sélection. Hein. C'est combien de courses?
Alors moi, j'en avais fait en 2021, j'avais fait les deux courses de sélection qui étaient le rallye d'Andalousie et le rallye du Maroc.
D'accord.
Donc j'ai eu mon accident et après là cette année j'avais refait le rallye du Maroc qui fait partie du Road to Dakar pour pouvoir accréditer réellement ma validation alors qu'elle était déjà validée. Donc,
d'accord, voilà. Mais ça officialise le départ pour ce Dakar.
Oui, c'est-à-dire que ça officialise et en plus de ça il faut monter un dossier avec ses motivations, puis après il y a le budget en soi qui est là et si tu l'as pas, t'y vas pas.
Ouais, c'est aussi simple
voilà,
que ça.
C'est ça.
Quand on est dans cette compétition, quand on est dans ce Dakar, qu'est-ce qu'on se dit? Parce qu'on l'a imaginé déjà depuis des années et des années, on l'a regardé à la télé, on s'est fait un Dakar dans notre tête. Mais quand on y est réellement, c'est quoi le sentiment?
Le sentiment, c'est...
Je te sens ému.
Ouais, parce qu'en fait, l'émotion, elle était quotidienne. C'est-à-dire que tous les matins, j'ai beau avoir 45 ans...
Non, mais ça, il y a du...
Non, mais ouais, j'avais toujours la larme qui coulait. Parce
mais
qu'en
même
fait,
encore quand tu en parles, tu as la larme qui coulait.
Ouais, non, mais parce que c'est... Ouais, j'ai vécu un truc qui est...
C'est inexplicable.
Ouais, c'est indescriptible. Je pense qu'en fait, il faut le vivre pour comprendre ce que c'est. Dans ma vie, je me suis jamais dit je suis fier de moi ou quoi que ce soit. J'ai eu deux fiertés, c'est la naissance de mes enfants. Et celle-là, troisième.
Nous, en tout cas, on est fiers de toi.
Ouais, ben merci.
C'est quoi cette aventure? C'est une aventure humaine, je suppose, avant tout. Avant même la compète, c'est une aventure humaine déjà.
Ben oui, parce qu'en... aventure humaine, oui, elle est particulière parce qu'en fait, j'ai voulu partir dans de bonnes conditions. Donc en fait, je me suis entouré de bonnes personnes. J'ai fait de grosses concessions dans ma vie. J'ai fait des choix de vie qui ont été compliqués parce qu'en gros... tu dis tu pars faire le Dakar, je te dis je suis pas un compétiteur je suis pas sportif de haut niveau, on me finance pas et tout, c'est un choix. C'est un choix qui a été fait à l'insu de plein de choses. C'est-à-dire que voilà, c'était ma volonté. Alors on va dire que c'est un mouvement d'égoïste, mais oui, c'est ça. C'est ça, mais par contre, l'égoïsme que j'ai, c'est il y a une satisfaction qui est arrivée.
Parce que je suppose qu'on laisse pas mal de choses de côté à ce moment-là.
Ouais.
On sacrifie beaucoup de choses.
Tu sacrifies des certains moments de ta vie, des choix, parce que comme je voulais être bien, je me suis coupé un petit peu du côté un peu festif qu'on peut avoir avec des potes ou des choses comme ça. Donc non, je me suis concentré sur ce que je voulais atteindre. Et voilà, donc en fait, t'as des choix qui sont sur n'importe quel domaine très, très, des fois dur à vivre. Voilà.
Comment on se prépare justement pour participer à cette compétition? Il y a beaucoup d'entraînement, il y a une grosse préparation physique et mentale.
Pour ma part, oui. C'est-à-dire que je voulais, comme je te disais tout à l'heure, j'ai voulu partir dans de bonnes conditions. Donc en fait, j'avais mon préparateur physique qui mettait des programmes, parce que j'essayais d'allier aussi la vie professionnelle la semaine. Donc quand moi je suis énormément en déplacement, le matin je me levais 1 heure ou 2 heures avant d'aller travailler, j'allais en salle de sport dans toutes les salles de France et de Navarre, et pour pouvoir me préparer. Donc c'était je veux dire quotidiennement, hein, c'était 3-4 fois par semaine, et le week-end quand je rentrais, je prenais ma moto et j'allais m'entraîner pour avoir du roulage.
Voilà. Donc
effectivement, là, quand tu parles de sportif de haut niveau, j'ai pas cette prétention de dire que je le suis, mais je me suis entraîné comme un sportif de haut niveau.
Comment on fait pour s'encadrer d'une équipe? C'est nous-mêmes, on va les chercher, on sait les personnes voilà, qu'il nous faut autour de nous pour pouvoir justement progresser dans cette compétition. Est-ce que c'est eux qui viennent à nous? Comment ça fonctionne justement pour pouvoir avoir un bon entourage et progresser dans cette compétition?
Pour progresser, moi je m'entoure toujours des personnes qui me sont... où j'ai une certaine philosophie et où je suis en adéquation avec eux. C'est-à-dire qu'en gros...
Il faut une affinité.
Une grosse affinité. Mon préparateur physique, Valentin, qui a été très très proche, dès que j'ai eu mon accident, m'a suivi dans ma rééducation et tout, psychologiquement, il m'a remonté le moral, mais comme jamais, avec des moments très très compliqués, hein, parce que je vous dis, quand tu te vois démantibulé, tu te dis, tu vas aller au Dakar, et tu te dis, dans le fond, ça va peut-être être un peu compliqué, mais t'as une personne à côté qui te dit non, tu vas y arriver, le côté mental vient se renforcer. Et après, sur tout ce qui est roulage, donc je sais faire un petit peu de moto, hein, je vais pas le cacher. Après, je suis parti avec un team, donc le team du Montier, qui est un très très grand pilote. Et en fait, c'est quand tu rencontres ces personnes, soit qui ont fait des Dakar ou qui le font actuellement, tu t'entoures de leurs conseils et t'essaies de mettre en place ce qu'ils te disent. Et voilà, et on en est arrivé au bout.
On va faire une petite courte pause musicale et puis on revient dans quelques instants pour continuer à parler de ce beau sport qui est le vroom vroom et le Dakar. On revient dans quelques instants, restez avec nous.
Summer heat, expensive car, empty street. There's a wire in my jacket, for this is my trade. It only takes a moment, don't be afraid. I can hot wire an ignition light, some kind of star. Just a poor boy in a rich man's car. So I whisper to the engine, flick on the lights, and we drive into the night.
You see me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love. I was here from the night. Keep me dancing. You see me dancing.
Oh, the smell of the leather always sides my imagination. Then I picture myself in some different situations. I'm a company director, 2 kids and a wife. I get the feeling that there's more to this one's life. There's some kind of complication when he tells her he's alone. He spends the night with his lover. There's a trace of her cologne and the words of his mistress as she whispers them so near start ringing in my ear.
Tonight, I've been all on my own. You promised one day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love. I was here from the light. Keep me dancing. You keep me dancing tonight.
So here I am in a stolen car at a traffic light.
They go from red to green. So I just drive in silver.
You should be dancing tonight. I've been all on my own. You promised one thing we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love. Always here from the light. Shake me dancing. You shake me dancing tonight. You shake me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love. Always here from the light. Shake me dancing. You shake me dancing tonight. You shake me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love.
On continue à parler de sport, on parle de rallye, on parle de Dakar, justement avec Sébastien Herbet qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Compétition mythique, on peut le dire, un rêve depuis un moment, tu le disais tout à l'heure. Pour la moto, moi je voulais en savoir un petit peu plus justement sur l'aspect de la moto. Tu étais habitué déjà à avoir un gros volume comme ça, à manœuvrer ce style de moto?
Ben, je l'ai eu dans mes courses de préparation, après d'accord. C'est une moto que j'utilise réellement que sur les rallyes. Je
l'utilise. Ah, tu l'utilises que pour
ouais,
ça.
Ouais, ouais, ouais. En entraînement, j'ai une moto de cross ou une moto d'enduro. Donc, c'est des gabarits qui font pas loin de 60 ou 70 kilos de moins. Donc, ouais, c'est entre guillemets des grosses bêtes à manier. C'est des motos qui sont faites que pour ça, de toute façon, parce que tu sens qu'elles sont prêtes à t'emmener. Il y a du gabarit, elles te mettent en sécurité malgré tout. Et non, je suis pas habitué à rouler qu'avec ça. Voilà.
Et justement, comment on fait pour s'habituer au sable? Parce que nous, notre sable ici d'Usura, ou de Saint-Lazare, ou de où tu veux, on n'est pas habitué. On n'a pas de sable ici, hein, c'est clair. Ouais. Mais comment on arrive à justement se préparer à ça, à aller sur les dunes, parce que c'est une conduite excessivement difficile? Est-ce qu'il y a une préparation quelque part dans un endroit dans le monde où tu vas pour pouvoir avoir une bonne préparation par rapport à cette situation?
Bon, en fait, je me suis spécifiquement mis dans les courses de sable depuis 2017.
D'accord.
En fait, où je faisais l'enduro du Touquet et le championnat de courses de sable. Donc, en fait, ça te familiarise un petit peu avec la texture de rouler. Après, quand t'arrives dans les dunes, on est sur un pilotage. Donc, effectivement, t'as une moto qui correspond à ça, mais c'est vraiment totalement différent. Tu te retrouves à monter des dunes de 300-400 mètres.
Eh oui.
Donc, en fait, faut trouver un moyen parce que tu peux pas les attaquer de front, hein, sinon tu...
Faut les contourner, c'est ça?
Ouais, on les contourne. On trouve un système pour les monter un peu en palier, hein, comme une marche en randonnée en montagne. Hein, c'est à peu près dans la même optique. Par contre, t'as tes wind points, tes points à aller chercher. Donc, faut aller bien l'endroit, sinon tu les valides pas.
Faut pas te perdre. Hein.
Non, on essaie.
Il vaut mieux éviter.
Ouais, ouais, c'est ça. Mais non, la spécificité s'était faite en 2017 où je m'étais mis à faire les courses de sable pour avoir un petit peu cet agrément sous les pneus.
Et il y en a qui se perdent.
Oui, ça arrive, mais après, quand tu te perds ou tu sais que tu vas te perdre, il y a un doute qui subsiste en toi. Et là, tu te dis, il y a un doute, il n'y a pas de doute, tu t'es gouré. Donc en fait, stop.
Ah, il peut pas y avoir de doute.
Non, il peut pas y avoir de doute parce qu'en fait, comme tu suis un roadbook, donc en fait, c'est notre carnet de route hein, qui nous permet de suivre le tracé bien spécifique. T'as des informations qui correspondent au chemin que tu dois pratiquer. Arrive un moment, ce que tu vois en face de toi, est-ce que t'as sur ton roadbook,
ça
correspond pas. Donc en un moment, tu t'es paumé. Donc des fois, tu peux avoir des similitudes et là, tu peux te perdre pendant 4, 5, 10 bornes. Et là, tu te dis oula. Donc là, en fait, ce que tu fais, c'est que tu reviens en arrière. Donc soit tu essaies de
reviens carrément en arrière. D'accord.
Ouais. Bah oui, t'as pas d'autre
et
choix.
Et donc tu perds du temps.
Ah ben c'est là en fait où la subtilité de la navigation prime. C'est-à-dire que si t'es bon en navigation, tu te perds pas. Tu peux être un très très bon pilote. Le moins bon mais qui navigue mieux sera devant.
Et c'est lui qui sera devant.
Voilà.
C'est quoi les règles un peu du Dakar pour ceux qui ne sauraient pas encore? Même si on connaît le Dakar, tout le monde connaît le Dakar. Est-ce qu'il y a des règles spécifiques au Dakar?
Alors les règles spécifiques, on va dire qu'on part dans un même principe qu'un enduro. Tu pars d'un point A à un point B. T'as pas de temps imparti puisqu'en gros c'est celui qui va rouler le plus vite gagnera.
Forcément.
Par contre en fait tu suis tes notes. Ton roadbook, tu suis tes notes, donc voilà. Et en fait, le chemin, tu l'as sous ton roadbook, tu le suis et tu le mets en application en roulant.
D'accord. Et tu gagnes, c'est étape par étape, c'est ça? Il faut que tu arrives premier à chaque fois, à chaque étape.
En fait, c'est le temps.
C'est le temps.
Ouais, parce qu'en fait, le matin, on part. Alors les top pilotes partent tous les 3 minutes, et après ceux qui sont en rallye 2, on part tous les minutes ou tous les 30 secondes. Et en fait, soit tu rattrapes la personne devant, mais on a un temps de départ. Donc en fait, c'est le temps à l'arrivée qui est déduit en fonction des pilotes devant ou derrière. Voilà.
Tu termines combien dans cette compétition ?
Alors moi, je finis en rallye 2, je finis 67e avec les 15 heures de pénalité que j'ai eu. les 15 heures de pénalité, c'est les 15 heures qu'ils ont laissé courir sur mon petit bivouac nocturne en solitaire.
Les dunes.
Ouais, non, ouais, 67e. Après,
c'est pas le plus important.
Non, parce qu'en fait, tout pilote qu'on soit. Alors, je fais abstraction des top pilotes qui sont là pour la gagne. Que tu finisses 20e, 60e comme j'ai pu finir ou dernier. En fait, ce qu'on veut, c'est finir.
C'est arriver au bout.
Ouais, c'est finir parce qu'en fait, les journées sont tellement aléatoires. Le matin, tu pars, tu sais pas si ce soir tu seras au bivouac.
Est-ce qu'on rencontre des locaux de temps en temps ou pas du tout ?
On leur fait signe, mais...
Salut !
Non, parce qu'en fait, on est dans nos petites bulles. L'organisation a tellement bien fait les choses, c'est qu'on est dans un bivouac. Et après, on est... même eux ne peuvent...
Les locaux ?
Les locaux ne peuvent pas rentrer dans le bivouac comme ils veulent. C'est sur invitation ou des choses comme ça. Donc en fait, on les voit sur le passage, en liaison ou des choses comme ça. Donc il y a une grosse attraction qui est là. Mais non, on les côtoie pas tant que ça.
Et vous, entre pilotes, vous êtes solidaire ?
Ouais, c'est une famille.
Ouais.
Ouais, c'est une très très grosse famille. T'apprends. En fait, t'as un pilote qui est entre guillemets dans la merde. Tu vas l'aider, quoi. Tu t'arrêtes.
Tu vas creuser avec lui, quoi.
Ouais, non. Et en fait, on a une solidarité particulière entre bikers.
Alors, on va en parler parce que c'est important aussi, parce qu'on s'imagine le Dakar à la télé, que voilà. Mais c'est une compétition très difficile psychologiquement, physiquement. Et de temps en temps, il y a des malheurs. Il y en a eu un.
Oui, effectivement. Falcon est décédé suite à une chute.
Après... Comment on le vit? Comment on l'appréhende, ça? Est-ce qu'on y est? Ouais, on le voit, mais on n'y est pas forcément parce que nous on a notre course à faire et puis on doit développer, on doit avancer. Ou est-ce que quand la nouvelle arrive, on prend un coup sur la tête quand même?
Je pense que là la course prend le dessus. En fait, on nous le dit hein, puisqu'on nous a prévenu qu'il y avait eu que Falcon était parti et on l'a su quelques jours après. Mais non, on est dans notre course quoi. Le tout c'est de rester concentré. Par la force des choses, c'est un fait de course hein. Comme moi je suis sur la route tous les jours, je fais 60 000 bornes par an, il t'arrive un accident, c'est par la force des choses, c'est la fatalité.
Ouais.
Voilà,
c'est le malheur, mais
voilà, après on n'est pas en bagnole quoi, on n'a pas de carapace autour, on a rien, on a que deux roues et on a que notre casque et la chose que l'organisation a mis en place depuis ces dernières années, c'est un airbag, un gilet airbag, et je pense que
il fait bien son travail.
Ouais.
Est-ce qu'il y a vous êtes tous mélangés voiture moto, enfin vous êtes tous ensemble dans le bivouac?
Alors dans le bivouac on est tous ensemble. Après bon ça se met par famille en fait, les motos d'un côté,
les voitures.
Mais par contre on côtoie tout le monde, c'est-à-dire qu'en gros il y a pas forcément de même un top pilote en voiture, que ce soit un Nasser Al Attiyah ou l'Ob, ils se prennent pas trop la tête quoi, ils sont très abordables et tout, et je trouve ça vraiment très très bien pour une course comme ça.
Et tu apprends avec ces pilotes justement, ils t'amènent de leur expérience.
Alors sur la voiture non, par contre les pilotes moto, oui, les anciens qui sont passés en voiture et tout, où j'ai été formé par deux trois, par des personnes qui sont Xavier de Soultré qui était en tête du Dakar pendant un de ses derniers Dakar. Voilà, c'est des personnes qui vont conseiller et en fait le mot revient toujours. En selle, c'est de se dire sois prudent, fais gaffe.
Fais attention
parce que tout peut arriver du jour au lendemain. Alors sans parler de l'accident, hein, il peut y avoir la panne mécanique et tout. Donc préserve ta machine, préserve ceci, préserve-toi, fais attention. Voilà, on est vraiment
Alors justement, s'il y a une panne mécanique, comment ça fonctionne? Tu te débrouilles quand même tout seul ou allô, je suis là, venez vite.
Alors on a le téléphone.
C'est bien.
Mais
aussi.
Non, on n'y pense pas. Si on en a, on se dépatouille tout seul. Hein. Après, c'est soit il y a un collègue qui va arriver et il va nous aider parce qu'il va connaître et tout. Après, soit tu t'appelles ton team, il va t'aiguiller sur ce que tu dois faire. Sinon, après,
faut mettre les mains dans le cambouis.
C'est ça, ouais, un petit peu. Ouais. mais le tout, c'est de partir. On n'y pense pas trop et on veut pas que ça arrive.
Oui, voilà, c'est ça. On croise tout ce qu'il y a à croiser. Hein. La course voiture moto, c'est la même?
Alors sur en
règle générale,
ouais, en règle générale, oui, sauf dans les 48 heures chrono où il y avait deux parcours spécifiques. Après, les motos partent en premier.
D'accord.
Du rallye. Et en fait, la première voiture part 50 minutes après le départ de la dernière moto.
D'accord.
Voilà, donc en fait, on est vite rattrapé. Hein, au bout de des étapes de 500, au bout de 8, ils roulent beaucoup plus vite, puisqu'on est sur nos motos, on est limité à 160 km/h. Eux roulent beaucoup plus vite. Donc au bout de 200 bornes, ils nous ont rattrapé. Et tu navigues dans la poussière. Et en fait, c'est pour moi le plus gros risque qu'il y a. En fait, le principal ennemi, c'est la poussière.
Il y a un gros équipement, je suppose, sur la moto, on doit l'équiper. Comment ça fonctionne?
Bon, les motos de rallye, elles sont faites pour ça, donc elles sont ready to race. Il y a plus de 30 litres d'essence, donc tu as une capacité à faire quelques kilomètres. Après, il y a une tour de navigation avec le roadbook intégré, il y a les GPS. Voilà, donc c'est une moto qui est vraiment spécifique pour ce type d'épreuve.
Aujourd'hui, ton entourage, qu'est-ce qu'il te dit après cette compète, une fois que t'es revenu? C'est quoi leurs mots? C'est quoi leur message? Ils te disent t'es complètement fou.
Oui, il y en a, oui. Non, mais après, on n'est pas si fou que ça, parce qu'en fait, tout se traduit par un calcul, et en fait, si on est fou, on finit pas. Donc en fait, c'est ça le côté un peu le paradoxe. Après, non, il y a une grande fierté.
Forcément.
Voilà, et puis non, en fait, c'est ceux qui connaissent la moto un petit peu, eux ils savent la dureté de l'épreuve, donc en gros ouais, ils me félicitent. Ouais.
On revient transformé d'une épreuve comme celle-ci?
Transformé, je sais pas, mais on apprend quoi sur ce que j'ai vécu. Moi, j'ai appris encore à mieux me connaître.
Ouais.
Ouais.
On pousse un peu plus loin.
Ouais, t'as pas le droit à l'erreur, t'es seul sur ta moto.
Débrouille-toi,
et en fait c'est là où t'apprends
à relativiser,
ouais, plein de choses, et le soir même, après les journées et tout, le lendemain matin, il y a plein de choses qui viennent en tête, et tu relativises sur certains paramètres.
Aujourd'hui, Sébastien Herbé, il est prêt à repartir?
Oui.
Ah oui, quand même.
Oui, alors c'est
paradoxal, parce qu'on se dit ouais, plus jamais je recommencerai, et puis on est prêt à repartir dès le lendemain.
En fait, c'est ce qui s'est passé à la fin de l'épreuve. En fait, je franchis l'arrivée, et en fait il nous reste 100 km de liaison pour rentrer au bivouac, et en fait tu te dis non mais là c'est fou, plus jamais je ferai ça, quoi. Et 3 heures après, j'étais seul au camion. j'aime bien ce petit côté solitude. Et il y a un pote qui vient me chercher et qui me dit, bon alors, t'es prêt à y retourner? Et j'ai dit, oui, on y va ensemble l'année prochaine.
Comme quoi, on n'est pas si fou que ça, en fait. Pour y retourner l'année prochaine, il faut continuer à faire ses qualifs. Il faut toujours faire les qualifs pour pouvoir accéder. Ou il y a une facilité, une fois qu'on a participé au Dakar, à pouvoir accéder justement à l'épreuve.
Non, là, en gros, le road to Dakar, je n'en ferai plus partie. Donc voilà, d'accord. En gros, donc après, par contre, je ferai peut-être une ou deux courses avant d'y aller pour l'histoire de t'en mettre dans le bain, puisque les motos sont totalement différentes par rapport à ce que je peux rouler le week-end. Donc oui, je referai un ou deux rallyes. Ouais.
Pour finir, quelle est la chose que tu retiens et celle que tu ne veux plus retenir et que tu veux oublier, s'il y en a une, hein, bien sûr?
En fait, la chose que je retiens, c'est la première fois où je me suis dit, ouais, je suis fier de moi. C'est ce mot fierté. Ouais.
Fierté.
Ouais.
Et qu'est-ce que tu ne voudrais plus retenir, que tu veux oublier, s'il y en a?
Mes 15 heures dans les dunes, je l'ai vécu, et maintenant je voudrais rouler sereinement et être à mon niveau. Voilà.
C'est important de l'oublier.
Ouais, c'est ça.
Il nous reste très peu de temps. Je vais te laisser le dernier mot de la fin, parce que généralement je laisse le dernier mot de la fin à mon invité qui passe par chez nous. Voilà, si t'as envie de t'adresser à quelqu'un en particulier ou pas, ou en général, le micro est à toi.
Non, ben aujourd'hui, j'adresse un très très grand merci à tous ceux qui ont cru en moi. Dans cette aventure, et à tous ceux qui m'ont aidé, puisqu'on le dit pas assez. Et c'est merci à eux. Même si on me dit c'est toi qui l'as fait, je dis merci à vous. Voilà.
C'est un ensemble.
Ouais, c'est un ensemble.
En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un vrai bonheur de t'avoir, une vraie fierté de t'avoir ici, ouais, dans le studio. Et puis nous, on va continuer à te suivre.
Merci de m'avoir invité énormément.
Moi, je vous souhaite le meilleur, bien sûr, comme d'habitude. Et surtout, soyez heureux. Let's go!